Merci d'écouter RFI, les 8h30 à Paris et Brazzaville, 10h30 à Nairobi. L'heure du journal. Bonjour Xavier Besson.
Bonjour Andréane, bonjour à tous. Un journal Afrique, le regard tourné vers les États-Unis. Jour d'élection présidentielle, ce mardi, jour crucial pour le pays, mais aussi pour les autres et pour les étrangers sur place, dont le destin pourrait changer en cas de victoire d'un camp ou de l'autre. Vous entendrez dans un instant le représentant des Sénégalais d'Amérique. Dans ce journal également, le Soudan qui porte plainte contre le Tchad. Khartoum accuse son voisin d'avoir laissé transiter sur son territoire des armes à destination des FSR, la milice du général Emeti. Le Tchad qui par ailleurs menace de se retirer de la force multinationale mixte. N'Djamena mécontent après la mort d'une quarantaine de ses soldats fin octobre dans la région du lac Tchad. Vous entendrez aussi le journaliste algérien Hissane El Kadi quelques jours après sa libération. Lui qui était l'un des derniers directeurs de médias indépendants dans le pays au moment où il a été emprisonné il y a 2 ans. Et les hommages du monde de la musique après l'annonce du décès ce week-end du musicien, arrangeur et producteur star américain Quincy Jones. Ce sont sans doute les 4 mots qui seront les plus prononcés aujourd'hui sur RFI. Kamala Harris et Donald Trump, à quelques heures maintenant de l'ouverture des bureaux de vote aux États-Unis, jour d'élection présidentielle. Un scrutin aux États-Unis, mais des conséquences potentielles pour toute la planète. Alors que pendant la campagne, le candidat Trump a promis, en cas de victoire, de mener, je cite, la plus grande opération d'expulsion nationale de l'histoire du pays. Mamadou Dramé est le président de l'Association des Sénégalais d'Amérique. Il avoue que les immigrés, même légaux, attendent les résultats du scrutin avec une certaine angoisse.
On est un peu angoissé. Quand je dis on, c'est les immigrés, par le discours belliqueux de Donald Trump. Ça nous préoccupe. Comme vous le savez, ça fait 1 an et demi ou 2 ans, il y a un afflux migratoire aux États-Unis. Les migrants venus de l'Afrique de l'Ouest, c'est un peu difficile de voir nos compatriotes être dans une situation d'angoisse. Donc ça touche tout le monde, hein, qu'on connaît des papiers ou non. Nous souhaitons que la candidate démocrate Kamala Harris gagne les élections. La politique migratoire de l'administration Biden, ça sera une continuité. Les migrants qui sont dans un processus d'immigration, disons, de demande d'asile, auront la tête tranquille quand même de continuer leur procédure d'immigration.
Mamadou Dramé, le président de l'Association des Sénégalais d'Amérique, joint par Walid Diallo. Et c'est tout RFI qui est mobilisé pour cette journée spéciale, soirée et même matinée de demain matin également spéciale. Et la journée de vote présidentielle américaine est également à suivre toute la journée en live sur notre site internet rfi.fr. RFI 8h33, à N'Djamena au Tchad, c'est une menace émise via un communiqué présidentiel après l'attaque des djihadistes de Boko Haram qui a coûté la vie à une quarantaine de soldats tchadiens dans la région du lac Tchad il y a 10 jours. Le Tchad donc a menacé de se retirer de la force multinationale mixte qu'il forme avec le Nigeria, le Niger, le Cameroun et le Bénin. N'Djamena parle de léthargie et d'absence de mutualisation des efforts. Alors comment comprendre ce coup de pression? Écoutez l'analyse de Remadji Wanati, spécialiste de l'Afrique centrale à l'ISS, l'Institut sur les études de sécurité.
Dans l'état actuel des choses, je pense que du côté tchadien, il y a une certaine nervosité due justement à cette situation, cette attaque qui fait que le ton monte assez facilement. Et je pense que le Tchad ne comprendrait pas justement que dans cette situation, il n'y ait pas une mobilisation comme il aurait attendu en soutien à cette opération lancée sur le terrain. Mais au-delà se pose aussi la question de comment la collaboration au niveau régional a été mobilisée en préalable pour que les autres armées soient disposées justement en temps voulu à contribuer valablement aux efforts tchadiens. Peut-être que la vitesse d'exécution côté tchadien a dû prendre de court les autres partenaires de l'autre côté. Mais certainement, cet incident qu'il y a actuellement vient en fait mettre à nu, si vous voulez, les difficultés qu'il y aurait dans cette coopération sous-régionale au niveau militaire. Cette coopération a porté des résultats, mais certainement des incidents de ce genre posent la nécessité, je pense, d'amener cette collaboration à d'autres niveaux de fluidité encore plus forte.
Le chercheur Remadji Wanati, joint par François Mazet. Le Tchad, par ailleurs, dans le collimateur de son voisin soudanais. Les autorités de Khartoum disent avoir saisi la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Le Soudan accuse le Tchad d'avoir laissé transiter sur son territoire des armes en provenance des Émirats arabes unis et à destination des FSR, c'est-à-dire les hommes du général Emeti qui sont en guerre contre l'armée depuis maintenant plus d'un an et demi. Des accusations déjà émises au mois d'avril dernier, répété ces dernières semaines, et dont Khartoum dit désormais avoir des preuves tangibles. Ouda Ibrahim.
La plainte a été déposée ce 1er novembre par les membres d'un comité juridique formé par le Conseil souverain et chargé de poursuivre les FSR et leurs alliés étrangers devant les instances internationales. La plainte vise le pouvoir tchadien et l'accuse d'intervenir dans les affaires soudanaises en soutenant les paramilitaires en guerre depuis plus d'un an et demi contre l'armée. Dans un communiqué, le ministère soudanais de la Justice affirme que le Tchad a joué, je cite, « un rôle essentiel dans les crimes commis par la milice rebelle » et que le Soudan détient des preuves tangibles sur cette implication. Djamena a réagi à ces nouvelles accusations en réitérant qu'elle n'intervient pas au Soudan sauf en tant que médiateur afin de ramener la paix. Le 29 octobre dernier, le représentant du Soudan auprès des Nations Unies a déclaré que les 30 camions d'aide humanitaire acheminés vers le Soudan depuis le Tchad étaient sous la protection des FSR, mais qu'en réalité, ils transportaient des armes sophistiquées pour eux. Le Tchad a toujours nié toute accusation de la part de Khartoum.
Ouda Ibrahim et la guerre au Soudan sur le terrain, c'est notamment en ce moment la bataille pour le contrôle de la ville d'El Fasher qui semble entrer dans une nouvelle phase. El Fasher, seule grande ville de la région du Darfour qui échappe aujourd'hui au FSR. D'après nos informations, ces forces de soutien rapide qui encerclent la ville depuis le mois de mai ont tenté ces derniers jours une nouvelle percée. Et en réponse, l'armée soudanaise a pour la première fois fait parachuter des militaires dans la localité El Fasher tenue aujourd'hui par des milices alliées de l'armée soudanaise. Dans l'actualité ce matin également, le Nigeria, où le président Bola Tinubu ordonne la libération de jeunes hommes détenus depuis le mois d'août, qui avaient été arrêtés au moment du mouvement de protestation End Bad Governance. Ces derniers jours, des vidéos les ont montrés au tribunal en état de grande fébrilité et ayant visiblement été maltraités. Les autorités nigérianes promettent des enquêtes. Au Niger, on signale une nouvelle attaque sur le pipeline qui transporte le pétrole nigérien vers le Bénin. Hier après-midi, dans la région de Koni, frontalière avec le Nigeria, même zone où l'édifice avait déjà été attaqué au mois de juin. À l'époque, ce sont les hommes du groupe armé FPL, Front Patriotique pour la Libération, qui avaient revendiqué les faits. Cette fois-ci, on ne sait pas ou pas encore qui est derrière l'attaque. Le Rwanda n'immatriculera pas de nouvelles mototaxis à essence à partir de l'an prochain. Kigali dit vouloir privilégier l'électrique moins polluant et moins bruyant pour ce qui est le premier moyen de transport dans le pays, le mototaxi donc. En Algérie, les mots d'Issan Al-Kadhi, le journaliste tout juste libéré de prison à la faveur d'une grâce présidentielle. Lui qui était détenu depuis bientôt 2 ans et qui était avant son incarcération le directeur de l'un des derniers groupes de médias indépendants d'Algérie. Que va-t-il faire maintenant ? Eh bien pour lui, la réponse est très simple.
Je ne sais pas faire autre chose que cela. Je pense que mes persécuteurs le savent. À mon avis, s'ils ne le sauraient pas, ils auraient vraiment tort. Donc la question qui se pose, c'est comment ? Nous ne pouvons pas ne pas faire de l'information. Quand je dis nous, nous sommes quand même une équipe. Nous sommes un collectif, et donc je pense que nous allons tenter de continuer de le faire. Après, comment ça se fera? Nous voulons le faire dans le cadre de la loi. Il y a une nouvelle loi sur la presse depuis l'année 2022, qui évidemment donne toujours la haute main à l'administration et l'exécutif pour décider de qui peut exercer, qui ne peut pas exercer, malheureusement. Nous allons demander un agrément pour essayer de continuer à exercer notre métier. C'est toujours notre intention. Il y a aujourd'hui une grosse crise, une défiance vis-à-vis des médias. Les médias ne peuvent rien raconter. Et l'épée d'Abouclès est là tout le temps sur la tête des rédactions et des directeurs de publication. Le contexte de la presse en Algérie est apocalyptique. Enfin, moi, qui ai vécu les années 90 avec les attentats du terrorisme islamiste, je pense qu'on a plus perdu ces dernières années que pendant cette phase-là, où en dépit des pertes terribles et dramatiques, on a maintenu le cap et on a continué à rapporter ce qui se passait dans la société algérienne. Aujourd'hui, c'est plus le cas.
Le journaliste algérien Hissan El Kadi, joint par Pierre Firsion. Une décennie noire en Algérie où les journalistes pouvaient peut-être travailler plus facilement, mais qui est aujourd'hui un sujet tabou. Et c'est aussi le sujet de Houri, œuvre du romancier franco-algérien Kamel Daoud, récompensé hier par le prix Goncourt à Paris. Un livre qui n'est donc pas édité dans le pays. Autre romancier distingué hier, c'est Gaël Faye, le franco-rwandais, lauréat il y a quelques années du Goncourt des lycéens. Cette fois, c'est le prix Renaudot pour lui et pour Jacques Aranda, qui est son deuxième roman, un récit du génocide des Tutsis au Rwanda en 1994. Et l'actualité culturelle, c'est aussi le monde de la musique qui pleure la disparition de Quincy Jones. Le guitariste camerounais Richard Bona parle par exemple d'un père, un pote, un mentor, un maestro et un ami. Quincy Jones, musicien, arrangeur, producteur américain, qui est mort ce dimanche à l'âge de 91 ans. Et depuis cette annonce, les réactions se sont multipliées tant l'homme a marqué l'histoire de la musique contemporaine. Le monde entier est tissé de liens forts avec le continent africain, nous raconte en musique Guillaume Thibault.
Transformé en or tout ce qu'il touchait, Quincy Jones possédait ce don, comme sur ce titre de Michael Jackson, Wanna Be Starting Something. Titre qui reprend, sans autorisation, un gimmick de la chanson Soul Makossa de Manu Dibango. L'affaire se terminera par un accord financier. Rares en tout cas sont les artistes qui ne revendiquent pas l'héritage de Quincy Jones, notamment le claviériste malien Cheikh Tidiane Seck.
Aucun mot pour définir Quincy Jones, ce grand baobab de la musique universelle. J'ai prié pour le repos éternel de son âme.
Saut dans le temps avec cette vidéo de 2017. Quincy Jones échange avec la star Kendrick Lamar. Sais-tu d'où vient le hip-hop ? Demande le doyen, qui évoque ensuite l'Afrique, particulièrement les Imbongi, terme sud-africain pour désigner comme les griots, ceux qui composent des poèmes pour raconter la vie quotidienne. La diva Angélique Kidjo a diffusé une photo où elle danse avec Quincy Jones. Et ses mots, tu es l'un des premiers musiciens à avoir montré la beauté de la vraie musique africaine. Pour connaître ses origines, Quincy Jones a effectué en 2010 un test génétique qui a confirmé ses racines africaines, qu'il était descendant de l'ethnie des Tikar dans le centre du Cameroun.
Quincy Jones et Guillaume Thibault sur RFI. En temps universel, il est maintenant 7h42 et vous êtes avec André Anne Mellard pour la suite d'RFI Matin.